les rencontres politiques en Ariège. C'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose quand même, parce qu'il y a une loi, donc la loi 70, qui introduit ce statut anonyme et gratuit sur lequel on peut s'appuyer, les usagers peuvent s'appuyer. C'est-à-dire qu'ils ont le choix de ne pas donner leur nom. Après, c'est complètement en contradiction lorsqu'on rentre dans le système de la prescription de médicaments en substitution. Là, d'autant plus qu'on s'inscrit en ville, il y a nécessité d'être un assuré social, et là, l'anonymat, il disparaît complètement. Et on est exactement sur ce que je disais tout à l'heure, c'est cette contradiction formelle entre la réduction des risques et la loi telle qu'elle a été pensée au départ, quand le seul objectif, c'était l'abstinence. Et sur la question du génétique, moi, ça me passionne, parce que, la personne qui était ce qu'on appelait le pape de la toxicomanie dans les années 70, qui était très opposé à la réduction des risques, et notamment à la méthadone, il avait eu quand même une idée géniale, c'est cette idée de la rencontre entre une personne, un produit et un contexte. Et dans, en l'occurrence, là, c'était surtout les histoires psychanalytiques qui les intéressaient sur la personne. Et je crois qu'il y a vraiment une révolution scientifique au niveau génétique qui permet de montrer qu'effectivement, on est tous inégaux devant les substances. Ça, c'est clair. De par notre génome, enfin notre hérédité, il y a des personnes qui sont plus vulnérables à certaines drogues. Et donc, quand je dis vulnérable, c'est déjà un jugement d'esprit, un jugement moral. Donc, il y a d'autres gens, il y a un chanteur de rock qui disait, une fois qu'on a trouvé sa drogue de prédilection, il faut s'y tenir.
C'était qui ?
Motorhead.
Et du coup, sur la question de l'anonymat et de la protection des personnes, c'est vrai que nous, à Technoplus, on n'y va pas les seuls dans plusieurs autres associations de santé communautaire où on n'est pas des soignants, du coup, et on n'est pas dans le même cadre. Pourtant, on est en lien avec des organisateurs de soirées illégales, avec des vendeurs de drogue, etc. Et on reçoit régulièrement des pressions, des interrogations, que ce soit les forces de l'ordre, des préfectures, des perquisitions dans nos locaux, etc. Sur des gens qui sont souvent jeunes ou bénévoles, ça crée des réels traumatismes en fait, chez certains bénévoles de l'association. Et ça nous met dans une position très compliquée. Parce que nous, si on veut pouvoir continuer notre action, on se doit de protéger l'anonymat de ces personnes-là. Donc c'est vrai que nous, on se cache vachement derrière le fait qu'on ne demande pas le nom des gens au stand, on n'a pas besoin de savoir l'âge, de savoir l'identité, etc. On va juste donner une info comme ça. Aussi sur la question de la majorité, de la minorité, on prend pas l'âge, etc. Mais c'est une vraie réalité que nos associations subissent régulièrement des pressions pour donner des noms d'organisateurs, des noms de consommateurs, des noms de personnes qui sont revendeurs aussi. C'est tout pour les protéger, mais ça nous met du coup dans des situations complexes que nous, les bénévoles.
Ici, je me demandais si vous aviez observé. Je ne sais pas si tu peux pouvoir répondre, mais s'il y a des consommations ou des modes de consommation ou des addictions qui peuvent être plus denses à certains endroits en France, ou si vous avez vu peut-être Technoplus, j'en sais rien, sur les pays limitrophes, ou je ne sais pas s'il y avait. Ou même dans la demande de soins.
Je ne pourrais pas. Oui, il y a des disparités géographiques, par exemple, dans les règles parties, le protoxyde d'azote, un gaz qui signale, est très très présent sur le territoire du nord et moins dans le sud. Mais après, j'ai pas la connaissance sur tous les produits et voilà, c'est des recherches en fait qu'il faudrait faire assez fines. Il faut regarder, je pense, les résultats de l'OFDT, l'Observatoire français de la drogue et de la toxicomanie, qui est du coup national et qui donne une information plus précise sur les observations terrain en fait.
Par région.
Sinon, il y a l'OFDT aussi, il y a l'équivalent au niveau européen. Et a priori, moi je pense que c'est assez sensé ce que vous dites, parce que souvent, il y a une relation entre les cultures et, le type de drogue qui sont consommées. C'était vrai pour l'alcool aussi. Dans les pays du Nord, je crois qu'on consomme vachement plus de psychostimulants. Dans l'épidémie d'héroïne dont je parlais, elle est surtout espagnole, portugaise. Le Portugal a été ravagé. D'ailleurs, ils ont changé leur loi pour savoir. En 2002, ils ont dépénalisé une date de toutes les drogues, parce que toutes les familles portugaises avaient au moins un héroïnomane dans sa famille. Enfin, donc il y a une relation entre la culture des pays et le type de consommation qui est évident.
Juste, je profite de ce moment-là pour interroger donc, du côté de l'Ariège, puisqu'on a, des associations locales, on a voulu vraiment leur donner la parole. Donc, qu'en est-il des consommations en Ariège? Est-ce que vous avez des éléments ou pas?
Il y a une culture rurale qui fait que les espaces de fête et les gens qu'on reçoit sont plutôt sur différents, par exemple du centre toulousain par rapport à d'autres centres d'addictologie. Les espaces sont plus sur les produits, peut-être, j'ai l'impression, j'ai une petite expérience de 17-18 ans de XAPA, le centre de soins, qu'on est moins sur les drogues de synthèse, qu'on est plus sur une revendication d'un produit naturel, d'un produit historiquement aussi, hein. Enfin, voilà, il y a autour de l'Ariège. Après, on est frontalier avec l'Espagne. Et il y a actuellement un focus national et qui nous concerne sur la cocaïne. On est plusieurs à pouvoir récolter aussi des produits pour les faire analyser, pouvoir un petit peu faire redescendre de l'information par rapport à ce qui tourne. Et on est concerné par quand même une augmentation de la cocaïne sniffée et fumée. Et il y a quand même un travail à faire pour essayer de voir ce qui est disponible et pouvoir alerter. Ça a été récemment des hyperpies sur certains produits. Enfin voilà, on fait partie de la veille sanitaire d'Occitanie et quand même au niveau d'expérimentation, on a des gens qui sont un peu plus. Les enquêtes escapades pour regarder les jeunes de 17 ans. On reste sur des toits assez.
Et puis, il faut bien avoir en tête aussi qu'aujourd'hui, on se pratique sur Internet, on ne peut pas n'importe quoi, on ne peut pas gérer n'importe où, bon, et voilà, ça, c'est des informations à prendre aussi avec ça en tête, c'est que c'est disponible partout et facilement accessible via Internet.
Avant de terminer, moi j'avais une question au niveau de contrôle et de faire des contrôles, de l'établi, parce qu'on a parlé de culpabilité, mais de rapport à la loi, etc. J'ai pensé aux femmes. Au niveau de la consommation, que ce soit festive ou pathologique, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, parce que vous avez une différence entre les gens?
Et est-ce que, je ne sais pas, si vous avez, est-ce qu'on prend plusieurs questions d'un coup ou vous préférez faire une question un peu? Parce que je vois qu'il y a encore des questions dans la salle.
Combien de questions?
2, 3, 4. Moi, je peux tenter de répondre rapidement, en tout cas, sur les... Au niveau de la prévention, notamment, on agit dès la femme enceinte et du coup, on travaille beaucoup avec les sages-femmes et toutes les équipes en fait, qui accompagnent à la grossesse, parce qu'il y a un vrai tabou encore sur la femme enceinte qui consomme. Et du coup, voilà, enfin, en fait, on essaye de réduire les risques aussi dans la consommation de la femme enceinte.
Voilà. Et il y a quand même des études qui ont pu nous montrer, notamment sur la question de l'alcool, que les femmes en fait, risquent de développer des pathologies un peu plus rapidement que les hommes pour des consommations identiques, mais que malheureusement, les femmes arrivent en général plus tardivement dans les centres de soins. Je rejoins la question du tabou, hein, la mère de famille, la future mère de famille, pour qui il est encore peut-être plus compliqué. Je parle là sur la question de l'alcool, hein, puisque ce propos d'assumer le fait d'avoir une consommation problématique d'alcool, là où parfois, du côté des hommes, c'est très valorisé, hein, savoir voir, c'est masculin, c'est viril. Voilà. Alors oui, il y a des choses qui changent. On a quand même des mentalités qui changent. Moi, ça fait 17 ans que je bosse en addicto. Effectivement, on voit quand même qu'il y a des choses qui évoluent tout doucement. Mais quand même, le tabou de la femme qui consomme fait que, malheureusement, l'accès aux soins est un peu plus tardif et voilà, il faut changer des choses. On y travaille. Moi j'ai un peu trois questions en une et on va faire ça synthétique. Mais en fait, je me demandais qui aujourd'hui en France classifie les substances de licites ou illicites. Est-ce que c'est basé exclusivement sur des critères de santé? Et est-ce que c'est des choses qui sont re-questionnées régulièrement? Parce qu'il y a des substances en fait, qui sont interdites depuis des décennies, sur lesquelles on peut avoir du recul aujourd'hui, alors qu'elles arrivent sur le marché, je ne sais pas, dans les années 70, par exemple. Donc voilà.
En fait, le tableau des stupéfiants, c'est une classification internationale qui est basée sur des conventions qui ont commencé au début du XXe siècle et qui se sont succédées. Et aujourd'hui, au niveau national, il y a une commission qui s'appelle la commission des stupéfiants dans laquelle j'ai siégé, où notamment ce qu'on appelle les nouvelles substances psychoactives, NPS, qui sont en fait des travaux de chimistes qui partent des grandes familles de drogues classiques, en fait, hein, opioïdes, psychostimulants, etc., qui changent un tout petit caractère, et du coup, ça sort de du tableau des stupéfiants, et il faut toujours les rattraper, il faut les reclasser, mais en fait, c'est une course à l'échalote invraisemblable, parce qu'on peut en faire des NPS, on peut en faire des milliers et des milliers. Donc, pour répondre à votre question, là, c'est la loi donc, qui établit cette liste du tableau des stupéfiants, qui n'a pas bougé. Les pays qui veulent légaliser le cannabis doivent faire sortir, par exemple, le cannabis de ce tableau des stupéfiants. Au niveau international, je parlais des États-Unis et du Canada, et il y a aussi l'Uruguay. Ils se sont permis de légaliser le cannabis en faisant fi des conventions internationales, ce qu'on pensait qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Uruguay le premier qui a légalisé. Et prendre un exemple, les Hollandais, qui sont les premiers à avoir toléré la consommation de cannabis dans les coffee shops, hein, très célèbres, eux n'avaient pas changé la loi parce qu'ils avaient peur de se coltiner justement cette convention internationale et d'être proscrits au niveau international. Et en fait, on s'est rendu compte que les Uruguayens l'ont fait sans qu'il y ait eu de réaction de la part des autres pays.
Oui, j'avais une question par rapport à l'addiction surtout les opiacés avec les produits de substitution, la méthadone et le sud. Et du coup, en fait, je remarque quand même que beaucoup de médecins ils ont tendance à vouloir augmenter les traitements et qu'il y a quand même peu de médecins qui veulent aller vers le sevrage, quoi. Même si ça dépend des patients, mais je trouve que quand même c'est un problème des fois, quoi, qu'on pousse pas assez vers le sevrage, quoi. Pour ceux qui ont envie de sevrer.
Vous êtes où? Parce que moi, je ne vous vois pas, là. Ah oui, d'accord, ok. Le médecin ne veut pas répondre à cette question? Non, parce que c'est important.
Oui, je pense que... Alors, je vais essayer de répondre de manière un peu structurée. Il y a beaucoup de médecins dans le... On n'a pas tous les médecins, on n'a pas forcément une formation en addicto. Il y a un peu une idée, en tout cas chez les médecins généralistes, que le traitement de substitution, il va être là sur une période très courte, et surtout s'en sevrer le plus vite possible, parce que il ne faut pas rester sous traitement de substitution très longtemps. Et du coup, il y a... en tout cas, moi, de la place que j'ai avec les dialogues que j'ai avec les autres médecins, il y a plutôt une tendance à vouloir diminuer et un peu forcer les personnes à diminuer les traitements et du coup à ne pas laisser la place à la personne en face de dire en fait, j'ai des soulevements ou en fait, je ne suis pas suffisamment dosée. Voilà. Ça, c'est pour le premier point. Et du coup, je pense que les médecins en addicto, peut-être, ont un peu tendance à vouloir proposer des augmentations ou en tout cas à proposer à rester au même dosage. Voilà. Après, si la demande c'est de diminuer et que le médecin en face fait de la résistance à la diminution, bon, en effet, c'est un problème et l'idée c'est quand même d'accompagner là où la personne a envie d'aller et peut-être que le médecin va penser que en fait, la personne serait plus confortable à un dosage plus élevé, mais en fait, finalement, c'est quand même la personne qui prend le traitement qui décide, je pense. Mais voilà.
Et je voulais aussi dire par rapport à que en fait l'addicto, enfin quand on est toxicomane quoi, enfin que malade, du coup, enfin et ben du coup c'est pas assez lié, je trouve, à aux problèmes psychologiques quoi. Que souvent, bah, par exemple, on dit une personne elle est en addicto, alors que c'est forcément lié, je pense. À un problème psychologique, quoi, enfin, psychiatrique, je sais pas comment on dit, mais il y a forcément un lien, je pense, et du coup, bah, souvent, on écarte les deux, alors que, il faudrait pas.
J'ai envie de répondre à ça par une image que je prends souvent, c'est-à-dire que j'écarte pas, mais j'ai envie de prendre l'image de l'iceberg, avec la partie émergée. La partie visible, hein, celle qui est à l'extérieur. Effectivement, qui est celle sur laquelle on va focaliser, celle que Titanic a vu à un moment donné, hein. Mais en dessous, c'est bien plus grand et bien plus puissant. Et finalement, tout ce qu'on voit, c'est cette petite partie visible qui nous dérange. Voilà, il se drogue, elle picole trop. Donc voilà, c'est cette partie visible qui dérange, mais qui est une partie asymptôme en fait. Avec effectivement des fois des troubles psychologiques, mais pas toujours, mais en tout cas parfois des choses qui sont bien plus invisibles et sur lesquelles, vous inquiétez pas, on essaie de travailler quand même.
Mais moi je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de tout background. Ah oui, non, mais c'est surtout tous les gens qui sont invisibles. Le problème, c'est que la grande majorité des gens vivent leur usage de manière secrète et discrète jusqu'à ce qu'effectivement ils puissent plus pour X raisons, mais la grande hypocrisie, elle est quand même là, c'est que on focalise sur des visibles, qui sont en général les plus vulnérables, les plus pauvres, et les gens qui ne peuvent pas se cacher.
Non, je parlais du visible dans le symptôme, quoi, là, enfin, voilà.
Ouais,
la consommation pose
ouais,
problème, ouais. C'est la partie visible, mais finalement, ouais. c'est bien plus profond que ça.
Quoi. Je voulais quand même, sur les traitements substitution, là, dire qu'il y a eu toute une vague au début de la prescription de médecins qui, effectivement, avaient tendance à ne pas prescrire, voire à prescrire des doses très faibles. Et c'est vrai que nous, on a constaté à l'inverse que la dernière génération de médecins aurait tendance, enfin, en tout cas certains addicteurs auraient tendance à faire une résistance terrible à la sortie de traitement, y compris derrière avec un lobbying des laboratoires.
Oui, c'est ça.
Qui n'ont pas du tout intérêt à ce que les gens sortent.
Oui, nous, du coup, en plus en tant qu'associé communautaire, on est énormément sollicité par des gens qui sont dans ce cas de figure-là et qui cherchent du coup d'autres voies pour réussir à se sevrer que le travail avec leur médecin. Je sais qu'il existe des collectifs qui listent en fait les addictos qui sont capables d'accompagner au sevrage et ceux qui font de la résistance. Et en fait, les gens s'organisent quand ils ont besoin de se sevrer pour soit changer d'addicto quand ils le peuvent, soit faire ça par d'autres moyens, des gens qui vont s'enfermer une semaine, deux semaines, trois semaines, qui vont consommer d'autres drogues sur ce temps pour réussir à survivre au sevrage. Et ça, c'est des réalités qui existent. Du coup, c'est important d'en parler. Et il y a une différence, je pense, aussi entre, voilà, comme tu le disais, les médecins qui sont formés en addicto et les médecins de ville ou de campagne qui ont, pour certains, mais très peu de connaissances sur tout ça. On voit aussi des cas de figure de personnes qui sont dans des usages qui pourraient passer sans ces traitements-là et qui se retrouvent du coup dans des traitements qui vont durer hyper longtemps alors que ça aurait pu être fait autrement et tout ça.
Je voudrais bien rebondir sur la psychiatrie psychologique. Ouais. Moi, je vous propose, Chantilly, vous voulez répondre à la question qui vient de poser. On prend deux dernières questions, et après, si vous voulez encore poser des questions, il faudra le faire de manière informelle à la buvette, parce qu'on a un super concert qui vient de démarrer. Ouais. Je réponds sur le lien entre addiction et pathologie psychiatrique, ou maladie psychologique, voilà, on peut l'appeler. C'est une question qui me tient un peu à cœur. Pendant très longtemps, ça a quand même été extrêmement dissocié. Les psychiatres disaient qu'ils ne s'occupaient pas des addictions. Les addictologues disaient qu'ils ne s'occupaient pas des maladies mentales. Et aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de travail sur essayer de rassembler les deux. Mais en fait, ça, c'est valable pour tout. En fait, on ne peut pas sectionner les gens en organes ou en problématiques. Je dis juste que là, je m'exprime du point de vue pas de maladie, de pathologie, et c'est une petite partie de la population, et ça, toutes les personnes qui consomment des substances n'ont pas forcément ne consomment pas forcément une substance pour une raison psychologique ou psychiatrique. Mais en tout cas, ce lien, il est quand même démontré, il y a vraiment des liens forts, en tout cas, pour ce qui est de la maladie d'addiction, ou de l'addiction, il y a des liens forts entre. Statistiquement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des pathologies schizophrènes, des troubles bipolaires, des troubles déficit attentionnel avec hyperactivité. Je rentre un peu dans le détail parce que ça me tient un peu à cœur, mais beaucoup plus que dans la population générale pour les personnes qui consomment des substances. Et ça ne veut pas dire, à l'inverse, que toutes les personnes qui consomment des substances présentent ces pathologies-là, pas du tout. Mais voilà.
C'est une question un peu différente là, mais c'est le moment de décomplexification de l'extrême droite. Ma question est la suivante, est-ce qu'au centre d'accueil, donc surtout parce que les films qu'on a vus sont attaqués, il y a une dégradation, ou est-ce que vous, en tant que personnel, aidant, etc., vous recevez des menaces personnelles? Voilà. Venant de l'extrême, on va dire de l'extrême droite. Mais...
Moi, je peux dire que le procès qu'avait Technopus partait d'un député national. Qui a posé part. À Technopus, on est plusieurs à être fichés. Voilà. C'est pas le Front National, mais c'est quand même.
On n'a pas beaucoup de questions à faire aux professionnels des quoi que ce soit. Par contre, c'est au niveau des patients. Les retours, là, depuis une quinzaine de jours, dans ma lettre. Du jugement, des surconsommations pour justement apaiser un petit peu tout ça, l'incertitude, des altercations, voilà, liées au conso, liées à la race, liées à l'orientation sexuelle. Et c'est vrai que c'était pas très très régulier, ça arrivait de temps en temps, mais là ça fait beaucoup en quelques jours.
Excusez-moi, je voudrais vous poser une petite question anecdotique. J'ai discuté avec un monsieur qui a plus de 80 ans et il m'a dit une chose qui m'a un peu étonnée. Il m'a dit que quand il était adolescent, il respirait, sniffait de la colle et j'aurais aimé savoir si, de quoi était composée cette colle. Je lui ai demandé, il ne savait pas, bien sûr. Alors, c'était certainement cette période d'adolescence qui devait être. Pour la passer et me dit que pendant plusieurs années, et je voudrais savoir si vous connaissez ce produit.
C'est une pratique qui existe toujours, notamment plutôt dans les pays dits du sud, dits défavorisés. C'est des solvants en fait, hein, ça peut se faire aussi avec des déos, d'autres produits qui présentent des solvants. Et quel type de solvant exactement, je ne pourrais pas vous dire. Mais par contre, voilà, c'est encore des choses qui existent.
C'est le principe de l'usage détourné de produits qui ne sont pas destinés à ça. Quoi. C'est une gel à colle, C'est le protoxyde d'azote qui, à la base, est fait pour faire de la chantilly dans les siphons maison. Enfin, voilà, c'est un peu le même principe. C'est des solvants, on en trouve au garage, on en trouve dans notre cuisine. Enfin, même avec votre noix de muscade à la cuisine, vous pourriez avoir des effets psychoactifs. Quoi. Donc, techniquement, effectivement, c'est qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce que je rencontre comme produit. Enfin, moi, la colle, je connais ça de la maternelle. Quoi. C'était des choses qui m'étaient dites en maternelle, donc il y a de ça 35 ans. Mais oui, voilà. C'est le principe de tout ce qui va être détourné, et puis il y a des nouveaux trucs qui arrivent régulièrement. Des trucs en date, peut-être des protos, mais bon, vous pouvez en avoir d'autres, hein, sur lesquels je n'ai pas entendu de voix. Le GPL, en fait.
Un truc là rapidement, c'est ce qui a été dit sur le Rassemblement national, en fait c'est beaucoup plus général, c'est qu'il y a un retour à l'heure actuelle d'une condamnation de la réduction des risques, il faut le savoir. Les expériences de réduction des risques, elles se sont accumulées sous la pression de nos associations et les pouvoirs politiques, encore une fois, ont été très peu courageux. La dernière femme politique qui a eu le courage de mener une campagne en faveur de la réduction des risques, elle s'appelait Nicole Maestrachi, elle est décédée il y a l'année dernière. Et depuis, c'est des politiques de droite qui se sont imposées. Les salles de consommation à moindre risque, ce qu'on appelle les salles de shoot par exemple, sont la dernière réalisation concrète de ce qu'a été la réduction des risques, et maintenant elles sont mises en cause violemment, y compris par exemple par le ministère de l'Intérieur. Donc il faut quand même s'attendre à ce que, justement parce qu'on n'a pas réussi à changer notre loi, il y ait une remise en cause de tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée qu'il faut accompagner les consommations, qu'il faut les intégrer, qu'il faut les socialiser. Il n'est pas du tout, finalement, une idée populaire, une idée forcément partagée par l'ensemble des citoyens. Donc, on peut être remise en cause par un mouvement qui voudrait l'instrumentaliser, et je reviens à mon obsession, et notamment l'instrumentaliser dans des questions identitaires de racisme.
Juste pour revenir, tout à l'heure on a fait une table ronde ensuite à la projection sur le Gen 7. Et il y a quelqu'un qui a dit que en fait, le marché de Crystal Meth en nord de l'Europe, en Belgique notamment, était géré par les néo-nazis. En fait.
Donc, c'est vrai que les nazis ils aiment bien le Crystal Meth. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, parce que les chars allemands ils ont traversé les Ardennes sous perfidie. Je me forme, c'est vrai. Mais c'est vrai.
Moi, je voulais juste faire une dernière question. Vous avez parlé de la stigmatisation des pratiquants dans des classes sociales défavorisées, mais il y a quand même eu un fait divers très malheureux hein, sur Pierre Palmade, et qui va être jugé, je crois, à l'automne. Et est-ce que vous craignez, justement, à ce moment-là, bien sûr, il y aura vraisemblablement des caricatures et puis une amplification médiatique qui risque d'être dommageable. Et est-ce que quelles sont les craintes que vous pouvez avoir pour ce côté-là?
Pour Pierre Palmade, pas beaucoup, hein. Parce que visiblement, on s'est beaucoup apitoyé sur son corps, sur son sort et sur son corps d'ailleurs. Mais visiblement, il n'en a pas dit tant que ça. Et surtout au regard de ce qui se passe, encore une fois, à chaque fois qu'il y a une opération XXL à Marseille, par exemple, c'est des centaines et des centaines de familles qui sont impactées, et je ne parle même pas des tueries, encore une fois, on a expliqué quelles sont des conséquences directes et indirectes de la prohibition. Par exemple, quand il y a des dealers qui sont évacués d'une part du marché, ça devient une proie pour d'autres gangs qui s'entretuent pour récupérer le marché dont les gens sont incarcérés. Donc on voit bien comment la prohibition elle-même nourrit ces facteurs de violence. Sur l'histoire de Pierre Palmade, moi ce que j'en ai tiré comme conséquence, c'est que ça a servi, tout le débat a servi uniquement à stigmatiser un peu plus les consommateurs et à parler du fléau de la drogue
justifier la répression qu'il y a sur la conduite. En fait.
Ouais, c'est donc ça. On aurait pu croire qu'on aurait pu justement avoir une personnalité qui avait la surface médiatique pour qu'on parle de réduction des risques et qu'on ait un petit peu les discussions qu'on a eues aujourd'hui. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Tous les plateaux de télé ont convoqué des gens qui condamnaient violemment l'usage du droit comme un fait.
Je pense qu'on peut aussi parler de
l'homophobie.
Oui,
c'était dans le panel.
Alors, avant de répondre sur cette question, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Il fait très chaud et ça fait déjà une heure à 45 minutes. Une petite conclusion avant de vous. On est très courte, hein, juste pour dire qu'effectivement, donc on a bien compris, répression, prohibition, ben, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais, qu'il faut vraiment sortir de l'hypocrisie dans laquelle on est, de l'instrumentalisation du sujet, qu'informer sur les drogues, ben, c'est vraiment une nécessité absolue, l'information, elle est plus nécessaire, savoir, c'est pouvoir. Que le capitalisme est une drogue dure, comme a pu le dire Virginie Despentes. Et je voulais surtout remercier tous les intervenants qui ont intervenu.
Will be televised.
to just like me, to act to just, to just, to just.